BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, Delphine Liu.
À la une du grand journal ce soir, un nouveau drame des migrants en Méditerranée, la loi Macron et puis cette non-livraison des Mistral avec l'épilogue d'une vaste saga qui empoisonne les relations entre Moscou et Paris. C'est décidé, donc la France va rembourser intégralement la Russie pour avoir refusé de lui livrer ses porte-avions. Thierry Mariani est en ligne avec nous. Bonjour. Vous êtes député à Les Républicains des Français de l'étranger et puis également en studio avec nous ce soir Corinne Narasiguin, porte-parole du Parti Socialiste. Thierry Mariani, vous êtes allé très fort aujourd'hui, un jour de deuil pour ce qu'il reste de notre indépendance nationale.
Parce que je me souviens d'un président qui s'appelait Jacques Chirac qui avait osé braver, j'allais dire, les demandes américaines et refuser qu'on suive les Américains en Irak, parce que je me souviens d'un président qui s'appelait François Mitterrand, que je ne soutenais pas, mais qui à un moment avait su dire non aussi aux demandes américaines quand il s'agissait de stopper des livraisons d'armes au Nicaragua. Et un tel jour de deuil, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, alors que ce n'est pas du tout notre intérêt pour suivre ce que demandaient les États-Unis, les Polonais, les Baltes ou les Britanniques, alors que rien ne nous obligeait, puisque François Hollande, au début, avait très bien négocié, avait su mettre le contrat, enfin, la vente du Mistral hors sanction obligatoire, puisque le contrat avait été signé bien avant le conflit ukrainien. Bref, je crois qu'aujourd'hui, on s'est aligné sur notre meilleur allié, mais par moment, notre meilleur allié, on doit aussi lui dire que peut-être on souhaite faire entendre une voix différente.
Donc, selon vous, François Hollande aurait dû maintenir cette vente, malgré la position de Moscou et de la Russie en Ukraine, avec son soutien avéré aux rebelles dans l'est du pays?
Si l'annulation de la vente avait servi à faire stopper ce qui se passe à l'heure actuelle en Ukraine, où bientôt 7000 personnes ont perdu la vie, il est évident qu'il aurait fallu stopper cette vente. Sauf que chacun sait très bien que ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport, d'abord, ça n'a aucun rapport militaire. C'est un bateau de logistique porte-hélicoptère qui n'a strictement aucune utilité dans le conflit actuel. Deuxièmement, ça n'a aucun rapport parce que on sait très bien dans l'histoire de dans l'histoire tout court, quelle que soit l'époque, que ce genre de blocus n'aboutit en général qu'à une radicalisation des protagonistes et pas du tout à ce que l'un cède. Bref, c'est une sanction qui ne sert à rien et qui simplement est symbolique, mais fait mal, je pense, avant tout à la France.
Combien ça va coûter, selon vous? Avez-vous une estimation environ?
J'ai dit il y a plusieurs semaines, et je maintiens qu'à la sortie, le coût sera d'environ 1,5 milliard. Dans la meilleure des hypothèses, pourquoi 1,2 milliard, c'est ce qu'on vient de régler. 1,2 milliard, ça correspond à ce qu'avaient payé en partie les Russes, à 400 millions à peu près, on peut estimer, de frais entre que les Russes ont demandé à avoir remboursé. Je pense notamment, par exemple, à la formation de leurs marins, au changement qu'ils ont dû faire dans le port de Vladivostok pour le bateau. Bref, à différents frais engagés par les Russes. 1,2 milliard. Aujourd'hui, le chiffre n'a toujours pas été communiqué officiellement par l'Élysée, mais je fais simplement remarquer que les Russes avaient dit il y a 3 jours, l'accord a été trouvé, il est de 1,16 milliard, que l'Élysée avait démenti, et qu'aujourd'hui, M. Le Drian vient de dire le chiffre sera en dessous d'1,2 milliard. Donc je pense qu'on n'est pas très loin et que les Russes n'avaient pas menti. 1,16 milliard. Ensuite, ce qui va coûter cher, c'est quoi? C'est la dérussification du bateau. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce bateau avait été conçu pour la marine russe, avait été conçu pour être équipé d'hélicoptères russes qui ont un gabarit, on va dire, particulier, comme chaque hélicoptère. Bref, avec par exemple des équipements comme un pont pour aller dans les mers d'extrême grand froid. Tous ces équipements-là, aujourd'hui, n'ont plus aucune utilité, comme l'équipement informatique interne au bateau qui était compatible avec ce que nécessitait l'armée russe. On peut chiffrer, je le répète, à plusieurs centaines de millions pour remettre ce bateau en état d'être vendu à un autre client que la Russie. Et enfin, dernier point, ce sera la décote commerciale. Quand vous avez un vendeur qui veut vendre à tout prix et des acheteurs limités qui savent que le vendeur est pris à la gorge, eh bien les prix descendent. Or, on sait très bien que le nombre de marines qui peuvent acheter ce bateau est plus que limité. C'est maximum 6-7. Et ces marines en question savent très bien que la France sera pressée de vendre parce que l'entretien de ces bateaux coûte cher. qu'additionnez les trois et vous arrivez à peu près à 1,5 milliard qui sera payé par le contribuable.
Thierry Mariani, est-ce que vous êtes de ceux qui estiment qu'il y a un paradoxe à refuser de livrer les Mistral à la Russie et d'accepter de vendre des Rafales au Qatar?
Oh, je suis... Oui, parce que... Je suis pas surpris, je veux dire, vous savez, je crois que je vais vous surprendre et je vais choquer certains de vos auditeurs. En politique étrangère, la morale, elle est invoquée quand ça arrange. Mais en réalité, je pense que la seule morale qu'on doit avoir en politique étrangère, c'est avant tout l'intérêt de ses propres citoyens. Regardez aujourd'hui, François Hollande est en Égypte.
Pour l'inauguration du canal du nouveau canal
voilà.
De Suez.
Oui. Il a raison, mais il est en Égypte où je rappelle quand même que le régime militaire du général Sisi suit un coup d'État et qu'une bonne partie de la gauche hurlait quand il est arrivé au pouvoir il y a quelques mois. Je dis très clairement, il a raison d'être là-bas. Il a raison de soutenir l'Égypte. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on a besoin de l'Égypte dans notre lutte contre Daesh, contre l'État islamique. Voilà.
Mais donc, on va aussi accessoirement leur vendre des rafales et des frégates.
Et c'est très bien.
Aussi.
Et moi, je m'en félicite. Et là, je sais tirer mon chapeau au gouvernement quand je trouve qu'il fait quelque chose de bien, mais regretter quand il fait quelque chose de mal. Voilà. Je pense que... on a besoin d'avoir un allié fort qui est l'Égypte. Je pense de même que nos relations avec la Russie sont importantes. Et surtout, je le répète, que sur cette histoire de conflit ukrainien, on peut pas évoquer le sujet en 30 secondes, mais aujourd'hui on est dans une situation où personne ne sait comment on va en sortir, où en réalité l'Union européenne a jeté de l'huile sur le feu, où personne ne veut perdre la face, et que je suis très pessimiste sur une issue rapide pour ce conflit.
Thierry Mariani, vous pouvez rester quelques secondes avec nous. Juste, Corinne Narasiguin, une réaction à ce que vient de dire Thierry Mariani. Est-ce que, selon vous, François Hollande a pris la bonne décision ?
Oui, il a pris la bonne décision. Parce que c'était vraiment une question de géopolitique. C'était une question, contrairement à ce que dit Thierry Mariani, qui était très importante par rapport à la crise ukrainienne. Parce que c'est quand même ça qui s'est passé entre la signature du contrat en 2011 et aujourd'hui, c'est la crise ukrainienne. Et dès que cette crise a éclaté, avec déjà à commencer par la Crimée, la question de la livraison de ces Mistral a été posée parce qu'il s'agissait de la crédibilité de la position de la France vis-à-vis de la Russie dans ces négociations sur la crise ukrainienne. On ne peut pas à la fois avoir des positions extrêmement fermes vis-à-vis de la Russie sur l'Ukraine et en même temps livrer des armes de guerre. Donc je crois que là on a pris la bonne décision. Il y aura des conséquences économiques à court terme, c'est certain, mais il n'y a pas de conséquences sur l'emploi sur les chantiers. Il y a déjà des acquéreurs visiblement qui se sont manifestés, puisque dans l'accord, non seulement il n'y a pas de pénalité, donc on a bien négocié cet accord puisqu'il n'y a que le remboursement des sommes versées, mais aussi il y a la possibilité donc de revendre ces navires. Il y a déjà des, comme je le disais, des acquéreurs potentiels. Et il faut aussi rappeler que ce qu'il y avait une deuxième partie de cet accord qui n'avait pas encore été mise en œuvre, mais qui avait été signée en 2011, qui était sur les transferts de savoir-faire français aux chantiers maritimes russes pour des constructions de répliques de Mistral. Donc maintenant, on ferme définitivement la porte à cela. Et moi, je pense que pour les industriels français, ça, c'est une très bonne chose.
Thierry Mariani, je crois que vous voulez réagir
à
ça.
Attendez, je suis désolé de contredire Corinne Narassi. Les transferts technologiques sont déjà faits, puisque le bateau est déjà fini. Je veux dire, les ingénieurs russes ont participé au suivi de la construction du bateau. En réalité, il y a un accord rapide à la raison qui a été trouvé. Et très sincèrement, c'est une bonne chose et c'est dans l'intérêt des deux pays. Pourquoi ? C'est facile à expliquer. On est dans une sorte de divorce où il vaut mieux un divorce rapide par consentement mutuel qu'un bon procès. La France a intérêt à un accord rapide parce que ça lui permet de revendre le plus vite possible ses bateaux. Et la Russie a intérêt à un accord rapide. Pourquoi ? Vous savez, quand j'ai discuté avec certains responsables de la commission de la défense russe, qu'est-ce qu'ils nous disaient ? Bah, écoutez, ce bateau, effectivement, c'était un accord politique. On pouvait les construire nous-mêmes, mais on avait choisi de faire un accord Medvedev-Sarkozy pour montrer qu'on pouvait avoir une entente sur certains projets. Aujourd'hui, on veut récupérer l'argent pour faire nous-mêmes ces bateaux, qui, entre parenthèses, bientôt, nous concurrenceront. Et puis, avec un grand sourire, il me disait, vous savez, les transferts de technologie, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble sur la construction de ces bateaux. Merci, on les a. Donc je pense qu'on a limité la casse avec cet accord qui a été signé, on ne paye pas de pénalité, c'est une bonne chose, ce qui prouve entre parenthèses que les Russes sont plus intelligents que ce qu'on croit, parce qu'ils ont su défendre leurs intérêts, et ils ont su aussi ménager, j'allais dire, des relations correctes avec la France, mais ne présentons pas ça comme un succès dans l'histoire du conflit ukrainien. Ça ne changera rien. Le Mistral, je le rappelle à Mme Narasiga, n'est pas une arme de guerre, c'est une arme de logistique. Il n'y a pas de... Voilà. Et dans ce conflit-là, ça ne change strictement rien. Et puis, dernière remarque, pendant que la France a renoncé à vendre justement ces deux porte-hélicoptères, eh bien, pendant ce temps-là, les États-Unis décident de monter une usine d'assemblage d'hélicoptères Bell en Russie. Et tout le monde trouve ça normal. Et ces hélicoptères, Mme Narasiga, il y a peut-être des chances qu'un jour on les retrouve sur un territoire extérieur.
Thierry Marien, je sais que vous devez nous quitter. Néanmoins, j'aimerais que vous réagissiez sur l'autre sujet brûlant de l'actualité, hein, qui est les migrants, avec ce nouveau drame en Méditerranée. 200 migrants sont toujours portés disparus. Parallèlement, des dizaines de migrants continuent d'essayer de passer au Royaume-Uni. Bernard Kouchner a déclaré « Ce n'est pas parce que les migrants se noieront en mer qu'il y en aura moins chez nous ». Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que la France doit faire et qu'est-ce que l'Europe doit faire pour arrêter ces drames?
Je pensais là que sur ce sujet, avec une phrase comme celle-là, Bernard Kouchner reflète la réalité. Je préside la commission des migrations au Conseil de l'Europe depuis 2 ans, c'est-à-dire les 47 pays de l'Union européenne. Et je suis halluciné par, j'allais dire, l'inaction des grands pays européens, à l'exception, je vais citer un pays qui, je le sais très bien, n'est pas dans l'Europe, à l'exception de la Turquie, qui fait un très très gros effort pour accueillir les réfugiés. Quel est le problème aujourd'hui? Aujourd'hui, regardez ce qui se passe, on se renvoie la balle entre les pays. Quand les migrants sont arrivés en Italie, quand les migrants sont arrivés en Grèce, la France n'a pas réagi, a laissé faire, et a dit après tout que c'était un problème italien ou grec. Aujourd'hui, on a ce problème à Calais. Et on essaie d'expliquer qu'il faut que ce soit les Anglais qui fassent un effort. En réalité, l'Europe doit avant tout se donner une politique migratoire très claire, et là, je ne serais pas d'accord avec... la majorité actuelle, je pense qu'il faut avoir un message très clair de fermeté. Le problème n'est pas de savoir si les migrants doivent être à Calais ou en Angleterre. Le problème, c'est d'arrêter les migrants avant qu'ils mettent le pied sur le sol européen. Et une fois qu'ils ont mis le pied sur le sol européen, bien négocier, étudier les demandes d'asile, mais pour ceux pour qui c'est réellement utile. Et à mon avis, la seule solution, c'est laquelle? Je suis député des Français de l'étranger et je regarde... ce qui se passe en Australie, il y a des choses qui ne sont absolument pas transposables. Je le dis tout de suite parce que l'Australie est protégée naturellement par les mers. Mais il y a des choses qui sont transposables. Par exemple, je crois qu'il faut dire qu'il faut très clairement étudier les demandes d'asile en dehors du territoire européen. Et on doit passer un accord avec un ou plusieurs États en Afrique pour étudier les demandes dans leur propre pays. On doit tout faire pour éviter que chaque personne qui en réalité... à un espoir de venir sur le sol européen, soit quasiment assuré d'être régularisé, parce que c'est cela aujourd'hui la réalité. On est dans une sorte de cercle vertueux, oui. C'est tout à notre honneur. On sauve un maximum de vies humaines, et c'est normal et c'est très bien, mais à la fois ce cercle vertueux où on sauve un maximum de vies humaines en Méditerranée, eh bien fait qu'il se transforme en cercle vicieux, parce que c'est un appel à encore plus. Voilà.
Oui, petite parenthèse sur l'Australie. L'Australie parque ses demandeurs d'asile sur des îles au large des côtes. Corinne Narasiga.
Est-ce que c'est mieux que de les laisser dans la jungle à Calais? Est-ce que c'est mieux
Justement, je voulais que Corinne Narasiga réagisse là-dessus. Le sénateur Roger Karoutchi déclare : nous sommes en train de créer des abcès de fixation qui profitent aux passeurs et nuisent aux vrais demandeurs d'asile en détresse.
Je pense qu'on a effectivement des problèmes importants à régler sur la manière dont on gère l'accueil, dont on gère les demandes de dossiers, les traitements des dossiers, pour faire le tri très très rapidement entre les demandeurs d'asile légitimes.
Ça, c'est l'objet de la nouvelle loi. Hein.
Absolument. Mais et d'ailleurs, je regrette que la droite ait fait beaucoup traîner, puisque c'est quand même au Sénat que ça a beaucoup traîné. On aurait dû l'adopter beaucoup plus tôt, cette loi.
Est-ce qu'il suffit d'une loi pour
non, ça suffira pas. Ça va pouvoir améliorer les mécanismes sur le territoire français. On va pouvoir améliorer les conditions dans l'urgence sur le territoire français, mais ça ne résoudra pas les problèmes de pression migratoire, de flux migratoire globalement, puisque ça concerne toute l'Europe, ça concerne aussi le monde entier. Et effectivement, je pense que par rapport à, surtout sur les questions de l'Asie, par rapport à la situation en Syrie ou en Libye, en Syrie, on sait que les réfugiés, c'est des millions qui partent vers la Jordanie, la Turquie, le Liban, ce sont ces pays-là qui prennent l'essentiel des flux migratoires et qui donc ont à gérer beaucoup plus de problèmes que l'Europe. Et donc là, c'est vrai qu'on a besoin d'une concertation extrêmement large au niveau européen. Il y a une urgence à traiter la question du risque, hein, des naufrages, bien sûr. C'est bien qu'on ait fait évoluer le dispositif Triton, pas seulement sur la surveillance, mais maintenant aussi sur des mesures de sauvetage en mer. Ça, c'est essentiel. C'est simplement d'éviter les tragédies humaines. Mais il y a aussi d'autres accords à trouver au niveau européen sur la question de à partir d'où on peut demander l'asile, dans quel pays, parce que c'est quand même beaucoup ça le problème. Et comment on traque les migrants, comment aujourd'hui, on reconduit à la frontière
se renvoie la balle, et c'est pour l'instant l'Allemagne qui accueille le plus de demandeurs d'asile.
Oui, c'est aussi parce que l'Allemagne France. A un besoin démographique qui est plus important. Mais je crois qu'effectivement, là, on pose la question. C'est comme sur la Grèce, je crois, sur le problème des migrants, la crise grecque, le problème des migrants. Tout ça montre qu'on a besoin de réinventer le sens de la construction européenne. C'est ce qu'on a perdu de vue depuis longtemps. On est dans des logiques d'intérêt, d'égoïsme nationaux, alors que on a justement, c'est dans l'intérêt de chaque pays de trouver des solutions à l'échelle de l'Europe. Non seulement pour traiter la question de ceux qui arrivent, mais effectivement pour casser les réseaux de passeurs, et puis pour stabiliser les pays, les zones de conflit. Il faut trouver des solutions politiques. C'est pour ça que c'est très important, les négociations qui ont cours actuellement encore sur la Libye, pour trouver une solution politique pour stabiliser la Libye. C'est pour ça que c'est important de travailler au niveau européen sur les politiques de co-développement qu'il n'y ait pas une migration économique de la misère économique qui soit aussi forte. Et puis, c'est là, il faut revoir les conditions d'attribution des visas à la zone Schengen, mieux harmoniser ces conditions d'attribution à travers tous les pays. Et effectivement, moi, je suis d'accord avec Thierry Mariani là-dessus, sur la question de mieux... peut-être c'est notre expérience conjointe sur les Français de l'étranger, mais de mieux gérer les demandes d'immigration légale depuis les pays de départ.
Est-ce qu'il ne faudrait pas, Thierry Mariani, régulariser exceptionnellement les sans-papiers qui sont intégrés sur notre territoire pour donner justement un peu plus de crédibilité à une politique de fermeté par rapport aux arrivants ?
Très sincèrement, je ne le pense pas. Même. Vous savez, la gauche a régularisé souvent, la droite aussi, soyons honnêtes. Puisque si la gauche avait des procédures, on va dire, un peu collectives, la droite avait des procédures individuelles, mais au bilan numérique, ça revient au même. Et à chaque fois, ça a amené quoi ? Ça a amené plus d'espoir. Je citais l'exemple australien, je sais bien qu'il est très dur. Mais regardons aujourd'hui ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a des hommes, des femmes, des enfants qui meurent en Méditerranée. En Australie, en 2013... l'Australie a adopté une politique extrêmement dure. Il y avait effectivement des dizaines de bateaux, le même problème, des gens qui mouraient en mer. En 2014, il n'y a plus un seul bateau. Pourquoi ? Parce que le message, et je pense que c'est ça qui est important, le message était passé, c'était pas d'avenir si vous essayez de rentrer illégalement. Alors vous avez raison, l'Australie stocke, l'expression est horrible, hein, je le reconnais, stocke ses demandes en réalité dans des îles voisine ou au Cambodge, voilà, et étudie les demandes dans ces pays-là. Mais au moins, reconnaissons une chose au système australien. Premièrement, ça a arrêté les arrivées irrégulières. Et deuxièmement, aujourd'hui, il n'y a plus de morts. Ensuite, le problème...
Il nous reste quelques secondes.
Oui, le problème, je pense aussi qu'à un moment, le problème, c'est aussi d'avoir une coopération, comme le disait Corinne Narasiga, avec les pays voisins. Mais il faut aussi, je pense, que l'Europe pèse. On aide par moment ces pays. Il faut leur faire comprendre que la coopération est indispensable.
Ce sera le mot de la fin. On pourrait débattre des heures, évidemment, de ce sujet. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Le Grand Journal continue. On parle du nouveau canal de Suez dans quelques instants.
BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le Grand Journal, Delphine Liu.
Historique, pharaonique, avant même son inauguration, hein, il a reçu les qualificatifs les plus ronflants. Le nouveau canal de Suez a donc été inauguré hein, aujourd'hui par le président égyptien Al-Sisi, en présence de François Hollande et de dizaines de dignitaires étrangers. Pour en parler, Frédéric Ancel est avec nous. Bonsoir, vous êtes maître de conférence à Sciences Po, un spécialiste du Moyen-Orient, et puis notre éditorialiste, Benaouda Abedaïm, un spécialiste
spécialiste des questions internationales. Il aura donc fallu 11 mois de travaux, près de 7,5 milliards d'euros pour creuser cette nouvelle voie, élargir une partie du canal initial pour relier la Méditerranée à la mer Rouge. Retour sur ce chantier avec Alexandra Paget.
Le canal initial creusé il y a 145 ans s'étend sur 163 km de long pour relier la Méditerranée à la mer Rouge. Certains tronçons de l'ouvrage de Ferdinand de Lesseps entre les grands lacs qui le ponctuent étaient très étroits. Ce sont ces passages qui ont été élargis. Au total, 72 km à creuser. Les entreprises mobilisées ont dragué plus de 250 millions de mètres cubes de sable et de terre. L'idée, c'est bien sûr d'accroître le trafic actuel sans le perturber et de désengorger la voie existante. Grâce à ce canal numéro 2, les bateaux ne devrait plus patienter que 11 heures contre 20 aujourd'hui pour pouvoir l'emprunter. Chaque année, 18 000 navires passent par le canal de Suez pour charrier 1 millions de tonnes de marchandises entre l'Europe et l'Asie, soit 10% du trafic mondial. Avant les travaux entrepris pour cette nouvelle voie, le transit des navires par le canal de Suez historique représentait près de 3% du PIB de l'Égypte.
Frédéric Ancel, ce projet d'élargissement, il remonte au début des années 80. Moubarak et Morsi, d'ailleurs, on avait rêvé. Al-Sisi l'a fait.
Oui, Al-Sisi l'a fait, sachant que c'est l'Arabie Saoudite et les Émirats qui l'ont beaucoup aidé, d'ailleurs. Alors, tant mieux pour lui, mais l'Égypte n'aurait en aucun cas pu financer ces travaux dont vous avez eu raison de rappeler que c'est pharaonique à elle seule, ce n'est pas possible. C'est le premier point. Deuxième point, il faut surtout espérer que l'armée égyptienne pourra repousser les assauts des terroristes qui ont décidé d'utiliser le canal de Suez, en l'occurrence les deux canaux de Suez, enfin, le nouveau canal de Suez, à la manière d'une cible stratégique. Parce qu'il faut bien comprendre que le canal, pour l'économie égyptienne, c'est la première source de revenus, vous m'avez bien entendu, la première source de revenus avant même le tourisme, qui est faux, avant même le coton. Donc on est là sur un dispositif absolument stratégique du point de vue de l'économie égyptienne, et si les islamistes radicaux qui considèrent le Sinaï comme une espèce de zone grise et qui vont tenter de toucher le canal de Suez réussissent à le faire, eh bien on verra des tankers et des supertankers faire le tour de l'Afrique comme au 15e siècle à la portugaise en quelque sorte, et ne plus passer par le canal de Suez. Et là, je peux vous dire que si on passe ici, ça serait une catastrophe pour l'Égypte.
Oui, Benaouda Abdedaïm, aujourd'hui, le canal de Suez assure une grosse partie des revenus du pays.
Oui, on est à 8% des recettes en devise pour le budget de l'État, c'est-à-dire autour de 4,7 milliards d'euros, sachant que l'objectif officiel, c'est pratiquement un triplement. L'objectif officiel, c'est pratiquement 12 milliards d'euros. Donc vraiment, c'est fondé énormément d'espoir dans les recettes en devise de ce nouveau canal de Suez, sachant que en réalité, depuis son inauguration, c'est-à-dire en 1869 par le Khedive Ismail, on fonde des espoirs démesurés dans ce canal de Suez. D'ailleurs, parenthèse, déjà, c'était l'impératrice Eugénie qui était à l'inauguration de ce canal de Suez en 1869 aux côtés du Khedive Ismail, mais ça a été le cas sous Anwar el-Sadat, ça a été le cas effectivement en 1956 avec la nationalisation par Nasser, et ça a été le cas aussi par le prédécesseur du maréchal Al-Sisi, qui est le président Al-Morsi. Donc voilà, c'est toujours et encore le canal de Suez qui va sauver le pays, et en tout cas au moins sauver ses finances. C'est d'où des objectifs économiques pour ce canal de Suez qui paraissent, selon plusieurs experts de l'économie maritime et même plusieurs journalistes égyptiens, particulièrement élevés, voire démesurés.
Ces objectifs, c'est à peu près 7 milliards d'euros de recettes actuelles et pour éventuellement atteindre 12 milliards, un peu plus de 12 milliards de recettes d'ici 2023. Oui. Vous disiez donc probablement des objectifs démesurés. D'autant que la santé du trafic maritime international n'est pas particulièrement au beau fixe.
C'est-à-dire que tout le monde aura constaté que la décélération du principal pourvoyeur de marchandises au monde, qui est la Chine. Mais au-delà de ça, lorsque vous voyez les passages de navires, actuellement on est à 49 navires jour. 49 porte-conteneurs jour. L'objectif officiel dans 8 ans, c'est 97 navires jour. Or, au pic de 2008, donc avant l'explosion de la crise financière internationale, on était parvenu à 59. Donc il faut passer de 59 au pic à 97. Ce qui paraît, étant donné le rythme de progression du commerce international, on est depuis plusieurs années dans une moyenne de 3-4%. Selon les projections de Capital Economics, il faudrait qu'il y ait jusqu'en 2023 une progression du commerce mondial de 9%. chaque année. Ça voudrait dire une croissance, un même rythme de croissance soutenu aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, qu'en Chine, ce qui pour l'instant paraît assez, là aussi, assez ambitieux, voire très ambitieux.
Le gouvernement égyptien place aussi beaucoup d'espoir dans l'aménagement d'une zone économique spéciale, donc dans cette zone, avec 1 million d'emplois créés et avec l'aide surtout d'investisseurs étrangers. Est-ce qu'ils seront au rendez-vous?
Alors, à la fin du discours du président Sisi, lors de cette inauguration, il a beaucoup insisté sur les projets annexes autour de ce nouveau canal de Suez. Donc, ces 6 tunnels routiers, ferroviaires, les nouveaux ports, les zones d'activité commerciale et industrielle. Alors, c'est vraiment tous azimuts. Hein. On parle de pétrochimie, de cimenterie, de construction navale, de textile. Bon, on attend de voir ce qu'il en est. Et il va même au-delà, il dit, ça va nous permettre de financer finalement la modernisation agricole indispensable à l'Égypte, sachant que l'Égypte, encore une fois, est un très gros importateur de produits agricoles et en premier lieu de blé. C'est un des plus gros importateurs au monde de blé chaque année, en moyenne plus de 5 millions de tonnes. L'idée, c'est vraiment que ce canal de Suez, nouvelle version, soit le pourvoyeur de devises pour financer pratiquement l'ensemble du développement du pays.
Frédéric Ancel, est-ce que, selon vous, ce canal de Suez était indispensable à l'économie égyptienne? Benaouda, on a perdu apparemment Frédéric Ancel. En tout cas, ce canal de Suez, c'est évidemment un coup de fouet, en tout cas voulu par le gouvernement à l'économie européenne. C'est aussi un magnifique coup de pub pour Al-Sisi, qui essaye de se mettre dans les pas de Nasser.
Oui, exactement. En fait, on se rend compte qu'il y a une énorme exaltation de la mère patrie avec ce qui apparaît comme une opération politique aussi. En réussissant à mener un projet d'une telle ampleur sur une seule année, il y a effectivement une réussite du peuple égyptien, une réussite incontestable et qui repose sur des bases nationales, c'est-à-dire une souscription nationale, un recours à l'emprunt auprès des banques étrangères, même si effectivement les bailleurs de fonds émiratis et saoudiens ont été très généreux par ailleurs. Il y a eu une sorte d'union nationale autour de ce projet. Même les islamistes se félicitent que ce projet ait été mené à bien. Et pour la première fois, c'est un canal de Suez, un nouveau canal de Suez qui repose sur des fondamentaux nationaux. Donc ça, c'est effectivement...
Les Égyptiens ont financé quasiment toutes
plus
de 7,5 milliards, effectivement.
Exactement, il y a eu des bons de souscription. Alors vous pouviez souscrire pour 1 euro, 10 euros ou 100 euros, et ça a été sursouscrit très très vite. Au bout de 2 semaines, on avait dépassé les 60 milliards de livres égyptiennes requises. Et effectivement, pas tout le monde, parce qu'il faut quand même pouvoir... consacrer 1 euro pour pouvoir acheter un bon de souscription qui vous donne 12% d'intérêt. Les banques égyptiennes actuellement donnent 10% d'intérêt. 12% d'intérêt, c'est en gros 2% de rendement net, parce que l'inflation actuelle, l'inflation officielle bien entendu en Égypte, est de 10%. Donc il y a ce geste patriotique, cette idée qu'on peut mobiliser les moyens nationaux. Et d'ailleurs, dans la presse égyptienne et panarabe, on souligne cette dimension de mobilisation nationale. Azmi Achour, qui est un essayiste égyptien dans le Hayat aujourd'hui, dit on a le sentiment d'une appropriation collective d'un projet national, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps, et que ça pourrait donner des idées pour d'autres projets nationaux, projets dans l'agriculture, dans l'industrie, dans les infrastructures, dans l'éducation. Et donc peut-être qu'on est en train d'assister en Égypte à un changement d'état d'esprit du citoyen par rapport aux autorités, et qu'il a l'impression qu'il se réapproprie le bien public et que finalement 1 euro plus 1 euro plus 1 euro peut former un énorme projet comme celui du nouveau canal de Suez.
Donc il s'appuie sur le nationalisme des Égyptiens pour lui-même asseoir son pouvoir, puisqu'il est arrivé il y a quoi ? Un an ?
C'est exactement cela. L'idée que l'Égypte est en mesure de redevenir une sorte de si ce n'est de référence pour le monde arabe, au moins une sorte de retour au rayonnement de l'Égypte. Il faut quand même se souvenir le rayonnement intellectuel, philosophique, artistique de l'Égypte dans la seconde moitié du XXe siècle. Enfin, tout le monde connaît l'écrivain Naguib Mahfouz, tout le monde connaît la diva Oum Kulsoum, tout le monde connaît le cinéaste Youssef Chahine, la renaissance de la pensée philosophique arabe est issu de l'Égypte avec le mouvement Nada et Mohamed Abdou. Voilà, donc ce sont tous ces éléments-là que, d'une façon ou d'une autre, sans le dire, ou peut-être d'une façon qui déplaît à beaucoup, est une tentative de se réapproprier ce rayonnement dans le monde arabe, sachant que cette Égypte de la fin du 19e siècle jusqu'à la fin du 20e siècle n'a plus les moyens de sa politique comme elle l'a aujourd'hui, parce qu'effectivement elle est soutenue à bout de bras financièrement par les Émirats Arabes Unis et par l'Arabie Saoudite, et ça on ne voit pas pour l'instant comment les seules recettes de ce nouveau canal de Suez pourraient changer les choses.
Donc message à l'égard, à l'intention des Égyptiens, message évidemment à l'intention de la communauté régionale, internationale. Le chef de l'État François Hollande était aux premières loges tout à l'heure, hein, Ismaël Dia, en début d'après-midi, pour assister à l'arrivée du général Al-Sissi donc sur le bateau. Hein. D'ailleurs, petite histoire, c'est le yacht sur lequel il est arrivé était le premier à emprunter le canal de Suez lors de la cérémonie d'ouverture. Hein. C'était en 1869. On va justement aller en Égypte rejoindre notre envoyé spécial Adrien Gindre, qui a assisté justement à cette inauguration aujourd'hui.
La cérémonie qui achève là sa toute dernière étape, là le défilé aérien et naval avec cette parade au cours de laquelle il y a quelques instants tout juste on a vu ici dans le ciel passer les trois premiers Rafales livrés par la France à l'Égypte, et ces couleurs également qui sont apparues dans le ciel égyptien, le bleu, le blanc, le rouge à l'image du drapeau français bien sûr. Participe également à cette parade un navire lui aussi vendu par la France à l'Égypte, une frégate multimission et de missiles, car on l'a bien compris, c'est la France qui est à l'honneur de cette cérémonie. François Hollande assiste d'ailleurs à tout cela au tout premier rang, juste à côté du président égyptien Al-Sissi, un président qui a prononcé lui un discours il y a quelques instants en soulignant la performance réalisée par l'Égypte, puisque cette extension du canal de Suez, elle a été réalisée en 12 mois seulement. Il a insisté sur les circonstances particulières, avec un contexte de lutte contre le terrorisme dans la région, des représentants de Daesh qui sont présents dans le Sinaï tout proche d'ici. Il a insisté pour utiliser cet exemple du canal de Suez comme la capacité de l'Égypte à résister, à montrer ce dont elle est capable et à avancer en direction de l'avenir.
Donc François Hollande, un VIP d'honneur, bien évidemment, à Ben Aouda Abdedaïm, la France est associée à tout jamais à l'ouvrage Canal de Suez, hein, puisqu'il avait été achevé par le diplomate et l'entrepreneur français, hein, Ferdinand de Lesseps, donc à la fin du 19e siècle. Évidemment, pas seulement, il y a aussi des intérêts économiques et stratégiques.
Il y a d'énormes intérêts stratégiques communs. Effectivement, la France est en train de se plier en quatre pour faire plaisir au président Sissi. Les rafales qu'on a pu voir lors de cette inauguration, la frégate qu'on a pu voir lors de cette inauguration ont été finalement pratiquement prélevées sur le quota français pour pouvoir les livrer, parce que c'était une condition sine qua non pour signer ce contrat, cette commande de rafale auprès de l'Égypte. Il y a effectivement cette dimension stratégique, la dimension économique aussi. La France se dit qu'il y a moyen de renouer ce lien économique. Encore une fois, nous en parlions tout à l'heure, il y a la France pourvoyeuse de blé pour la Grèce et pour l'Égypte, grand consommateur de blé, mais il y a aussi un transporteur maritime, CMA-CGM, qui fait beaucoup d'affaires dans le canal de Suez. C'est CMA-CGM qui rappelle que un de ces méga porte-conteneurs qui fait 18 000 EVP, c'est-à-dire l'équivalent de 18 000 conteneurs, c'est 780 000 euros de recettes pour le canal de Suez. Donc maintenir ce flux entre la France et l'Égypte. Après, est-ce que cela repose sur des fondamentaux solides? Là, la question se pose parce que beaucoup d'Égyptiens disent que ce sont des fonds qui auraient pu être consacrés à des projets plus nécessaires à l'économie égyptienne. On dit notamment que ce sont des fonds qui auraient pu aller à la consolidation du delta du Nil, le delta du Nil qui vit à peu près la moitié de la population égyptienne, qui a besoin d'être consolidée pour pouvoir continuer à produire des produits agricoles. Et voilà, c'est aussi ces éléments-là, ces critiques-là portées à l'endroit de ce projet du canal de Suez.
Frédéric Ancel, cette inauguration du canal de Suez, c'est donc un message adressé aux Égyptiens, c'est aussi un message adressé à la communauté internationale. Egypt is back, c'est ça?
Oui, c'est ça, mais si vous voulez, les mots coûtent pas grand-chose en général. Hein, et Ben Aouda a eu parfaitement raison tout à l'heure de rappeler les différentes étapes de la montée en prestige, ou de la volonté de monter en prestige de l'Égypte, qui est tout à fait légitime d'ailleurs pour ce pays. Mais le problème, c'est que c'était vrai à la fin du 19e, c'était encore plus vrai avec Nasser, ça recouvrait pas toujours une authentique réalité. Et on a vu à maintes reprises des politiques égyptiennes qui étaient erratiques, et notamment en 66-67 avec Nasser, pour ne parler que de Nasser. Donc on est là, si vous voulez, sur des dépenses qui resteront somptuaires si elles ne sont pas encadrées en quelque sorte par ou si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une gouvernance qui est rationnelle. Alors je ne dis pas qu'elle ne l'est pas, elle a été moins d'ailleurs rationnelle que dans d'autres pays arabes qu'elle a été en Égypte, mais je pense que ça ne suffit plus. On a affaire à une société de 83 ou 84 millions d'habitants, le double dans 30 ans au minimum, car la transition démographique n'a pas encore été totalement faite en Égypte, et avec des postes qui sont extrêmement faibles, avec une économie largement rentière. On a évoqué évidemment le canal, on pourrait aussi évoquer les fonds des travailleurs émigrés donc à l'extérieur de l'Égypte, et puis évidemment les 2,3 milliards américains chaque année au titre du respect des accords de Camp David de 1979. Tout ça c'est très bien, mais on n'est pas sur une économie en quelque sorte productive. Il n'y a pas de high-tech, il n'y a presque pas de pôle industriel, et ça risque d'être extrêmement léger, surtout d'ailleurs, et je pense qu'on l'a évoqué, surtout si le tourisme ne tient plus ses promesses, parce que le tourisme, derrière le canal de Suez, et là aussi on est dans une forme de rente, c'est le deuxième poste économique de l'Égypte. Alors vous avez raison, Égypte bat que oui, enfin, à certaines conditions quand même.
Est-ce qu'on peut voir également dans cette démonstration de force un message aux voisins de l'Égypte qui est notamment en ce moment en pleine intervention au Yémen aux côtés de l'Arabie Saoudite?
Oui, effectivement, nous avons la volonté pour l'Égypte de démontrer à l'Arabie Saoudite que d'abord son aide n'est pas vaine, que l'armée égyptienne va très fidèlement soutenir la cause. Alors la cause avec un C majuscule aujourd'hui, c'est quoi? C'est évidemment l'acte sunnite face à ce que les sunnites perçoivent comme l'impérialisme panchiite iranien. Bon, tout ça, encore une fois, c'est très bien, pourquoi pas. De toute façon, l'armée égyptienne est la seule aujourd'hui à pouvoir, au sein du monde arabe, faire encore quelque chose de concret sur le plan militaire et éventuellement de réussir sur le plan militaire. Les autres pays arabes ont soit des armées d'opérette, soit sont absolument effondrés, bon, surtout depuis le début du printemps arabe. Donc oui, c'est vrai aussi vis-à-vis d'Israël. Alors pourquoi je vous dis vis-à-vis d'Israël? Parce que nous avons aujourd'hui un niveau de coopération dans le renseignement et sur le plan militaire qui est très élevé entre Israël et l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'évidemment, l'épouvantail commun, ce sont les djihadistes du Sinaï et maintenant d'ailleurs de la bande de Gaza. Donc c'est aussi vis-à-vis d'Israël que les Égyptiens veulent montrer avec le canal, mais également avec l'achat de nos rafales français, qu'ils sont sérieux et que eux aussi, dans la région, ils peuvent absolument tenir leur rang sur le plan militaire face aux radicaux et face aux djihadistes, quels qu'ils soient.
Merci, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Frédéric Ancel d'avoir participé au Grand Journal. Et je rappelle à nos auditeurs téléspectateurs que votre prochain ouvrage, Petite leçon de diplomatie, paraît dans 2 semaines aux éditions Autrement. Merci Ben Aouda Abdedaïm. C'est la fin du Grand Journal. On se retrouve bien sûr demain à la même heure. Dans quelques instants, le journal de la rédaction et la librairie de l'écho avec Emmanuel Le Chypre et ses invités.